Europe 1.
Et ce matin, avec nous, le ministre du Travail. Bonjour Olivier Dussopt.
Bonjour Pierre Benino.
Ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Du plein emploi, le chômage baisse de 0,8. Moi je veux bien, mais de là à dire que c'est du plein emploi...
C'est un objectif. Il faut rappeler que depuis le début du premier quinquennat, le chômage a baissé de près de 2 points. Nous étions un peu au-dessus de 9%, nous sommes à 7,2, 7,3. Et nous avons un objectif de plein emploi que beaucoup considèrent autour de 5%. Donc il faut travailler pour cela, il faut continuer à soutenir l'activité. Il faut aussi travailler sur l'insertion, sur la formation, pour que celles et ceux qui sont aujourd'hui encore restés au bord du chemin de l'emploi puissent être accompagnés vers l'emploi et donc vers l'émancipation et l'autonomie.
Ouais, enfin, on va en parler de la formation, mais je parle du chômage. Vous haussez les allocations chômage de 2,9% au 1er juillet, donc vous ne poussez pas forcément les Français à retourner au travail.
Alors, première chose, ce n'est pas une décision de l'État, c'est une décision des partenaires sociaux dans le cadre de l'UNEDIC. Et il faut respecter le dialogue paritaire et nous sommes dans une période...
Donc vous n'avez pas la main, vous dites, vous pouvez pas dire non, on s'oppose à
non,
ça.
C'est une décision des partenaires sociaux dans le cadre de la gestion de l'UNEDIC. Et donc il faut aussi le respecter, c'est la même chose sur les retraites complémentaires. Le régime Agirc-Arrco est un régime paritaire, il y a des choses qui relèvent de l'État et des choses qui relèvent du dialogue social.
Mais est-ce que c'est un bon signe quand même, les allocations chômage vont être plus élevées?
C'est aussi une réponse à l'inflation. Les personnes qui sont sans emploi méritent aussi d'être protégées, comme les personnes qui sont en emploi. Donc nous avons des revalorisations automatiques du SMIC, qui sont prévues par la loi de 2008. Nous avons des revalorisations du point d'indice de la fonction publique, annoncées par Stanislas Guérini pas plus tard qu'avant-hier, et ou en début de semaine. Et nous avons aussi des modèles, des outils de protection, et la revalorisation des allocations chômage en fait partie. Je signale par exemple que, pour ce qui concerne l'État, dans le cadre de l'augmentation des prestations, nous allons aussi revaloriser l'allocation de fin de droit, par exemple.
Il y a une chose qui fonctionne bien dans l'emploi, Olivier Dussopt, c'est l'apprentissage. Madame Borne même l'a souligné l'autre jour. En ce qui concerne l'apprentissage, le gouvernement décide d'économiser 800 millions d'euros dans les formations. Comment est-ce que vous expliquez cette décision?
Alors, il faut être très précis.
C'est pour ça que vous êtes là.
Il y a deux outils d'intervention. Le premier outil d'intervention, c'est une prime à l'embauche qui est versée aux employeurs d'apprentis. Mmh. Avec Elisabeth Borne, vendredi dernier, nous avons annoncé que cette prime à l'embauche de 5000 euros pour un apprenti mineur et de 8000 euros pour un apprenti majeur, qui devait s'arrêter le 30 juin et prolonger jusqu'au 31 décembre. Et d'ici au 31 décembre, j'ai la charge avec les partenaires sociaux de voir comment nous prolongeons ou pas cette aide, avec quelles modalités et quel montant. Puis il y a un deuxième aspect qui concerne la prise en charge des coûts de formation par les CFA, par les organismes de formation. La loi de 2018, qui a réformé le secteur de l'apprentissage, avait prévu qu'en 2022, il y aurait une révision de ces coûts de formation. Et nous savons, parce que...
Donc vous avez sauté sur l'occasion en disant, tiens, on va faire moins cher.
Nous avons appliqué la loi et nous avons constaté que le niveau de prise en charge par l'État, via France Compétences, était en moyenne 20% au-dessus du coût réel. Et donc, il y a un mécanisme de régulation. Et ce mécanisme de régulation se traduit par une diminution, pardon, c'est un peu technique, du niveau de prise en charge des coûts de formation par les organismes de formation de 5% au 1er septembre. Et il y aura une deuxième vague, si je puis dire, en avril 2023, sur la base des résultats de 2022.
Ça veut dire que les prestataires prennent trop d'argent, c'est ça?
Il ne faut pas jeter la pierre comme cela. Et ça veut dire que...
J'essaie de comprendre.
Le système s'est mis en place en 2018 avec une nouvelle organisation, avec des coûts qui étaient calculés de manière un peu forfaitaire. Et comme le prévoyait la loi en 2018, nous ajustons le niveau de prise en charge par France Compétences, l'organisme chargé de ce financement, vis-à-vis de la réalité des coûts des opérateurs.
Mais il n'y avait pas un moyen de faire plutôt un meilleur audit ou a posteriori, plutôt que de couper en amont?
Ça n'est pas couper en amont, c'est couper ou baisser plus exactement, après avoir constaté sur les premières années une différence.
Oui, c'est ce que j'appelle
et d'ailleurs, je signale, parce que c'est aussi important de le souligner, que le conseil d'administration de France Compétences, qui est composé d'organisations syndicales et patronales, a voté cette diminution de 5% avec une très large majorité.
Olivier Dussopt, il y a un sujet évidemment pour les Français, et vous l'avez évoqué avec effectivement la hausse de l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. L'inflation en France, c'est 5,8% en juin sur un an, on dit même 7 à la fin de l'année, c'est du jamais vu depuis des décennies. C'est évidemment très préjudiciable et très pénible pour les bas salaires. Que dites-vous à ceux qui veulent absolument revaloriser le SMIC, le mettre à 1500 euros hors prime d'activité? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté des Français?
D'abord, nous agissons et le gouvernement agit depuis plusieurs mois avec des mesures qui ont été prises. Le bouclier tarifaire est un cas unique en Europe qui permet de limiter le prix de l'électricité et du gaz. Ça n'existe nulle part ailleurs et ça explique que nous ayons...
C'est reculé pour mieux sauter, disent certains autres.
Ça explique tous ceux qui ne font rien, oui, effectivement. Mais ça explique aussi que nous ayons un taux d'inflation beaucoup plus bas que les pays qui nous entourent. Nous avons mis en place des dispositifs sur l'énergie, nous avons mis en place des dispositifs pour les ménages les plus fragiles, nous avons annoncé la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. numérique. Nous avons aussi annoncé la revalorisation de prestations sociales et familiales. Je pense par exemple à la prime d'activité, justement pour inciter encore et toujours favoriser au travail. Ce sont des revalorisations qui sont anticipées par rapport à ce que nous aurions dû faire et qui protègent. La revalorisation
jusqu'à
des retraites.
Jusqu'à quand?
La revalorisation des retraites de 4% permet de compenser l'inflation. Il y avait une revalorisation de 1,1 au début de l'année. Nous ajoutons 4%. En janvier, il y aura une nouvelle revalorisation en fonction de l'inflation et comme le prévoit déjà la loi. Et donc, nous protégeons les Français et la loi sur le pouvoir d'achat, qui sera examinée par le Conseil des ministres dans les prochains jours, est une loi de protection des Français. Il y a des solutions plus faciles et plus démagogiques, qui consistent à dire le SMIC à 1 500 € sans prime d'activité. Nous savons que ça entraînerait une spirale d'inflation et que ça mettrait à mal la compétitivité des entreprises et donc l'accès à l'emploi.
Mais qu'est-ce que vous faites, vous, du coup ?
Ce que l'on fait, c'est d'abord que nous appliquons la loi sur le niveau du SMIC. Il y a une loi de 2008 qui prévoit une revalorisation automatique en cas d'inflation trop importante. Elle n'avait été actionnée qu'une fois. Elle ne s'était actionnée qu'une fois. Depuis un an, et elle a amené une revalorisation à 2 reprises. Ça signifie qu'en un an, le SMIC en France a augmenté de 5,9%. C'est-à-dire autant que l'inflation. Et si l'inflation dans les semaines et les mois qui viennent est plus importante, nous aurons à nouveau une revalorisation automatique. Cela a des conséquences aussi, dans le sens où dans les branches professionnelles, il y a des conventions avec des minima de branches, et à chaque fois que le SMIC est augmenté, il y a un risque, et un risque avéré, que les premiers paliers de ces conventions et de ces minima de branches soient en dessous du SMIC. Ça ne veut pas dire que des salariés sont payés en dessous du SMIC, c'est illégal. Ça veut dire que lorsque vous occupez un de ces emplois, que vous rentrez dans ces branches, vous avez un risque de devoir attendre plusieurs années d'ancienneté pour décoller du niveau du SMIC. Et donc, les branches sont tenues d'ouvrir des négociations sur leur minima quand il y a des revalorisations qui amènent le SMIC au-dessus de leur premier palier. Comme il y a eu plusieurs revalorisations rapidement, nous avons un peu plus de 110 branches sur les 170 qui ont au moins un niveau de rémunération théorique inférieur au SMIC. Beaucoup de travail pour se mettre à jour, si je puis dire. La semaine prochaine, je réunirai le comité de suivi des négociations salariales.
Qu'est-ce que c'est que ce comité ?
Ce comité de suivi associe les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux, suit les négociations salariales branche par branche, et c'est aussi l'occasion de dire que le gouvernement est attaché à ce que la loi soit respectée. Et la loi dit que lorsqu'il y a un niveau de rémunération dans une branche inférieur au SMIC, il faut que la branche ouvre des négociations. Et à défaut d'ouvrir les négociations, ces branches font l'objet d'un suivi particulier, et nous voulons aller un peu plus loin. Par exemple, dans la loi pouvoir d'achat, nous avons prévu une disposition qui dit que si une branche professionnelle reste durablement avec des paliers inférieurs au SMIC, ça ouvre la porte à sa restructuration et à sa fusion avec d'autres branches, dans cette logique que l'on poursuit depuis plusieurs années, donc, de réduction du nombre de branches.
Donc négociation la semaine prochaine avec les partenaires sociaux, mais c'est quasi sûr que ça sera accepté ?
Tous les partenaires sociaux ont un intérêt. C'est l'attractivité des métiers, et c'est aussi le respect de la loi, et la loi dit qu'il y a des négociations à ouvrir lorsque les minima sont inférieurs au SMIC. Ça relève vraiment de l'attractivité. Si vous avez 1, 2, parfois 5 ou 6 paliers de salaire d'une branche inférieure au SMIC, ça signifie que les salariés qui intègrent ces branches au premier niveau doivent attendre 7 ans, 8 ans, 9 ans pour avoir l'espoir d'une rémunération supérieure au SMIC. Ça n'est pas attractif. Il y a des secteurs qui perdent en attractivité pour cela. Un exemple qui est presque d'actualité parce que c'est une de nos préoccupations au gouvernement. Le secteur de la sécurité et du gardiennage. Nous y travaillons beaucoup parce que dans la perspective des Jeux Olympiques, dans un peu plus de 2 ans maintenant, il y a une nécessité de former, de recruter beaucoup d'agents de sécurité. Dans ce secteur-là, vous avez 300 000 personnes titulaires de leur carte professionnelle. Et sur ces 300 000 personnes, vous en avez plus d'un tiers qui ne travaillent plus dans ce secteur. Ça illustre le problème d'attractivité. Et donc, nous aurons cette discussion avec les partenaires sociaux pour voir comment, dans un contexte d'inflation, de revalorisation potentielle du SMIC, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces branches dans des négociations sur leur minima.
Voilà donc ces négociations qui auront lieu la semaine prochaine. Sur le travail en France, Pôle emploi dit qu'il y a 1 200 000 emplois à pourvoir dans l'hôtellerie, la restauration, les transports. Personne ne trouve de recrutement dans ces secteurs. Comment est-ce qu'on arrive à faire que les vases communicants marchent mieux ?
Nous avons renforcé un certain nombre d'outils. En octobre 2021, il y a moins d'un an, Jean Castex, alors Premier ministre, a annoncé un plan de réduction des tensions de recrutement avec 1,4 milliard d'euros de crédit. Double objectif, à la fois former des salariés dans les entreprises pour qu'ils montent en compétences et que les entreprises puissent répondre à leurs besoins, et former 800 000 demandeurs d'emploi pour que ces demandeurs d'emploi aient des compétences qui répondent aux besoins des entreprises. Ça donne des effets, et notamment ça a des effets pour les chômeurs de longue durée. Depuis octobre 2021, Le nombre de chômeurs de longue durée qui a retrouvé du travail, c'est 240 000 personnes. Le nombre de...
Mais tout ça, c'est le temps long, Olivier Dussopt. C'est-à-dire que là, pour pallier l'urgence, on va chercher des gens en Tunisie.
C'est vrai, pas seulement, mais c'est vrai. Et il y a des actions aussi beaucoup plus rapides. Vous évoquez des secteurs en tension, comme l'hôtellerie, café, resto. Mmh. J'étais mardi avec une agence Pôle emploi spécialisée dans le recrutement du secteur HCR, justement.
Mmh. HCR, c'est hôtellerie,
café-restaurant.
Café-restaurant, voilà. Hein, c'est pas l'autre HCR.
Non. Et en fait, c'est dans cette agence-là, je prenais connaissance des chiffres nationaux. Sur un an, Pôle emploi a accompagné le recrutement de plus de 150 000 personnes dans les hôtels, café-restaurants. Il y a encore des besoins, il y a des tensions. Et donc, nous devons mettre le paquet sur la formation, l'accompagnement, y compris des accompagnements très individualisés pour faire en sorte que, en matière de savoir-être, de savoir-faire, nous ayons plus de personnel formé. Tout à l'heure, on évoquait le plein emploi. Mmh. Ce que vous dites là, et ce que nous disons en réalité, est la démonstration que pour atteindre le plein emploi, il faut évidemment de l'activité économique et de la création d'emplois, mais il faut aussi de la formation et de l'insertion pour que personne ne soit au bord du chemin.
Et il faudrait aussi que ce soit le même ministre qui puisse lier les deux. On parle d'un remaniement la semaine prochaine, vous restez ?
C'est au président de la République et à la première ministre de donner cette réponse.
Donc vous ne savez pas si c'est vous qui allez porter la réforme des retraites, par exemple ?
Je l'espère, mais je le répète.
Vous avez travaillé dessus, vous avez déjà entamé des négociations avec les partenaires sociaux.
Des discussions assez informelles pour le moment. Nous ouvrirons la phase de concertation plus tard, lorsque le calendrier sera arrêté. Un remaniement.
On a un calendrier déjà.
Nous avons un objectif qui avait été annoncé par le président de la République, qui est que début juillet, le gouvernement arrête son calendrier de travail. Donc dans ce cadre-là, nous préciserons le calendrier des différentes réformes et nous dirons à quel moment nous ouvrons les concertations sur la question
des retraites. Donc pour l'instant, vous ne savez pas ou alors on ne voulait pas nous le dire.
C'est encore un peu tôt pour dire quel est le calendrier.
Mais quoi, c'est l'automne, c'est la rentrée.
La rentrée sera très vite là et c'est un chantier suffisamment important pour que nous puissions nous y attaquer très tôt.
Est-ce que on peut, dans ce pays, arrêter de jouer au super loto du départ à la retraite 64, 60, 62, 63, 65 ans? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas en annuité? Expliquez-moi.
Aujourd'hui, nous travaillons déjà en annuité et nous avons un système qui prévoit à la fois un âge légal, qui est aujourd'hui à 62 ans, en dessous duquel, sauf exception, carrière particulièrement longue, pénibilité ou situation de handicap, vous ne pouvez pas partir, sauf exception, à la retraite avant 62 ans, quel que soit le nombre d'annuités pendant lesquelles vous avez cotisé. Et donc nous avons ce double système. Nous avons un objectif avec cette réforme des retraites, même un double objectif. C'est d'abord améliorer ce système-là. Mmh. Le système n'est pas juste. D'abord, il n'est pas lisible avec 42 régimes. Il n'est pas juste. Il ne prend pas en compte suffisamment la pénibilité. Et la pension minimum, quand vous avez fait une carrière complète, n'est pas assez élevée. Tous ces progrès à réaliser représentent aussi un coût, et donc il faut équilibrer le système qui, alors nous parlons, présente aussi un déficit, et dans les 10 années qui viennent, ce déficit sera plus marqué. Donc il faut trouver la solution, et comme notre solution n'est pas d'augmenter les cotisations, n'est pas d'augmenter les impôts, n'est pas de creuser la dette, il faut travailler plus. Et travailler plus, c'est à la fois le plein emploi, parce que travailler plus collectivement, c'est qu'il y ait plus de gens au travail, et c'est aussi travailler plus à l'échelle d'une vie, mais ça ouvre d'autres questions à discuter, sur la pénibilité, oui, sur l'aménagement des carrières longues, etc.
Dans une assemblée où la majorité n'a plus de majorité absolue, comment est-ce qu'on va fonctionner l'assemblée avec un président de la commission des finances qui est Éric Coquerel de la France Insoumise?
D'abord, c'est la démocratie et ce sont nos institutions qui prévoient que les groupes d'opposition aient accès à un certain nombre de responsabilités.
D'accord, mais sinon l'opinion d'Olivier Dussopt?
Je considère que j'aurais préféré un autre président de commission, à vrai dire.
Vous auriez préféré le candidat du RN ?
Ah non, j'ai aucune compromission avec le Front National.
Ce sont des compromissions.
Aucune. Et ce sont des postes qui reviennent à l'opposition, et c'est à l'opposition de dire qui elle désigne et comment elle le fait. Et j'aurais préféré, si je vous donne mon avis personnel, un président ou une présidente de commission des finances pleinement ancrée dans un parti de gouvernement. Je pense par exemple à Valérie Rabault, qui à mes yeux aurait été une bien meilleure présidente. L'Assemblée est ce qu'elle est.
Et
elle est
On va faire avec.
Elle est ce qu'elle est et elle est le reflet du choix politique des Français. Et donc nous allons travailler et passer des compromis, passer des accords, trouver des majorités pour faire en sorte que les textes soient adoptés.
Notamment sur la réforme des retraites.
Bah, entre autres.
Donc je vous dis à bientôt
avec
la réforme des retraites.
Je le souhaite, à très
Merci
bientôt.
Olivier Dussopt d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal du Tour et la carte blanche signée Catherine. À tout de suite.